Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a interpellé, c'est l'équipe de France de handball qui dispute l'Euro en Scandinavie sans aucun expert. Cette génération, double champion olympique et quadruple champion du monde, menée par les, vous souvenez, les Karabatic, Omeyer, Narcisse, je suis sûr que vous les avez pratiquement tous. Nicolas Paolorsi est en Norvège au plus près des Bleus pour RMC. Salut Nico!
Salut les GG, salut à tous.
Alors avant d'en parler dans le vestiaire, justement, on voulait parler de ça avec toi. Les Bleus sans experts, c'est un petit événement dans la planète hand française quand même, hein.
Clairement, bah c'est la génération qui a écrasé le handball mondial, qui a sûrement fait d'ailleurs qu'on a un peu banalisé les victoires dans ce sport, tellement ils ont gagné de trophées. Le dernier à avoir pris sa retraite internationale l'an dernier, c'est Luka Karabatic, le frère de Nicolas, et ça change beaucoup de choses pour le sélectionneur Guillaume Gilles.
C'est une équipe qui a vécu beaucoup de mutations. Quand on regarde, encore une fois, depuis deux ans, ce qui s'est passé au sein de cette équipe, c'est le départ de beaucoup d'illustres anciens, de légendes de notre sport.
Aujourd'hui, la dynamique, effectivement, elle est plus répartie. Donc oui, il y a de la place pour tout le monde.
Les joueurs qui ont arrêté en équipe de France sur les deux dernières années, Luka Karabatic, 172 sélections, Valentin Porte, 195, Vincent Gérard, 157 et le meilleur joueur de tous les temps, Nicolas Karabatic, 365 sélections. Alors, il n'avait plus un rôle majeur forcément sur le terrain, mais dans le vestiaire, c'était les patrons, Yanis Lenne, l'ailier droit de l'équipe de France.
T'as plus vraiment de numéro 1, numéro 2. Quand on est en rond à la fin de l'entraînement et que tu regardes les joueurs, tu dis... L'équipe, elle est solide, quoi, mais surtout par rapport à ça. Il y a moins de déséquilibre entre la première et la deuxième rotation, j'ai envie de dire.
Moins de déséquilibre et un mot d'ordre pour cette compétition, c'est Aymeric Zetfeld, un des bijoux des Bleus, 24 ans, qui nous donne la devise des Français pour cette Euro.
Ce qu'on essaie de faire passer, c'est la star, c'est l'équipe. Après, bien sûr, on a des individualités très fortes. Elles doivent continuer à être fortes, à porter cette équipe, mais on est tous avec ces joueurs à faire en sorte d'être un noyau très très dur.
La star, c'est l'équipe. Alors attention, il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont là depuis quasiment 10 ans maintenant. Fabregas, le capitaine, Dikamem, c'est des noms qu'on connaît. Mais ils n'avaient pas le même poids dans le groupe. Et je rappelle quand même que cette équipe de France, même sans les experts, a individuellement ce qui se fait de mieux au monde avec des joueurs qui évoluent tous dans les plus grands clubs européens.
Ben oui, merci Nico. Nico Paolorsi à l'Euro de handball en Scandinavie. Je rappelle que la France a gagné hier 46-26. Bon, sans experts, on s'en sort pas trop mal aussi. Deux victoires en deux matchs. Du coup, la prochaine rencontre, c'est face à la Norvège lundi à 20h45. Bah les GG, à travers vos expériences, j'aimerais qu'on parle de ça. Comment on passe de témoin avec les plus jeunes, le basculement d'une génération, ça se passe comment dans le sport de haut niveau? On parle en plus là d'une thématique qui vous concerne tous, hein, et qui concerne aussi la vie de tous les jours, hein, dans l'entreprise, notamment. Comment on passe le témoin finalement? Cédric, tiens, on va commencer par toi.
Tu la vis de façon, la première, quand tu es jeune et que tu arrives et que les anciens, eux, te passent le relais avec leur façon, avec ce qu'ils ont vécu. Et après, il y a ta fin de carrière, ce que toi, tu as envie de faire et ce que tu as envie de passer. Moi, pour exemple, quand je suis arrivé à Brive, des joueurs comme Sébastien Viars, Alain Penaud ont été très protecteurs sur mon arrivée dans les vestiaires, même si c'était un vestiaire avec de grosses personnalités, j'ai été plutôt protégé. Après, quand je suis arrivé, parce que j'étais encore un peu jeune, quand je suis arrivé au stade, ça, c'est pareil, il y a des gros joueurs qui m'ont protégé. Et après, à l'inverse, quand moi, j'ai voulu passer le relais sur ma fin de carrière à Bayonne, ça a été plus compliqué parce que tu joues moins, parce que les coachs te font pas confiance, ils veulent pas que t'endosses ce rôle-là, et tu le vis un peu moins bien. Quand t'as l'envie de partager, l'envie de transmettre, ça peut te laisser un petit goût amer dans la bouche.
Mais toi, par exemple, alors là, tu parles de Bayonne de la fin, mais à Toulouse, il y avait un garçon que tu
Max Médard.
Beaucoup.
Max Médard, je sais, il aime pas que je le dise, mais je dis souvent c'est mon petit bébé,
Bon bébé.
Parce que Max était doué, il était au-dessus, et puis on le savait qu'il allait arriver, qu'il allait marcher.
Mais c'est quelqu'un qui pouvait prendre ta place.
Mais j'ai pas eu ce rapport. J'ai jamais eu ce rapport à dire le jeune va me mettre dehors. Je suis l'ancien. Allez, tu restes derrière, tu restes dans les rétros, tu regardes comment je fais. Non. Moi, je suis sur la performance. S'il est bon, il y a pas d'âge. J'en ai souffert étant jeune de pas jouer à cause de d'entraîneurs qui prenaient pas le risque de faire jouer un jeune. S'il est bon, il joue. Sauf que Max, c'était plus des discussions sur le haut niveau psychologiquement, parce que physiquement, il allait très vite, il était au-dessus. C'est juste sur le passage de l'apprentissage du mental, de la motivation,
tu dis
du
quoi,
travail.
Tu dis quoi, j'ai envie d'accompagner ce garçon, ouais. Peut-être pas comme on l'a pas fait avec moi quand j'ai commencé.
Ouais, exactement, parce que certains ont été pas très cool, pas cool du tout sur
c'est-à-dire
c'est-à-dire que comment dire, j'ai pas envie de dire des petits coups en douce.
Non, mais le sport de haut niveau, c'est la jungle.
Mais, ouais, mais moi, je pense que le vestiaire est une jungle. Et ouais. que quand tu es dans ce vestiaire-là, si t'es pas prêt à mordre les autres, dans les règles, t'y arriveras pas. Et par moments, c'était un peu moyenasse, voilà. Donc là, j'avais pas envie qu'il souffre de ça. Et j'avais envie de l'encadrer. Et puis bon, c'est un vrai bon mec. Donc t'avais envie de l'aider. Quand t'es dans un vestiaire où les anciens font tout pour garder leur place, même s'ils sont pas au niveau, mais usent de leur influence auprès des coachs, ça devient très moyen.
Pascal, la transmission, le passage de témoin, évidemment, c'est un truc qui fait partie de tous les environnements.
Oui, ben je vais pas passer comme Cédric à la partie joueur. Autre époque, autre mœurs. Moi, j'ai commencé chez les professionnels au FC Sochaux, c'était dans les années 80. Or, croyez-moi, un jeune qui arrivait dans l'effectif professionnel dans les années 80, il y avait comme une forme de bizutage. C'est-à-dire que faut pas croire que t'étais accueilli aussi bien qu'on les accueille aujourd'hui. À savoir,
pardon de te couper, Pascal, mais une anecdote, quand j'arrive à Agen, je me change pendant plus d'un mois dans le vestiaire, sauf que mes affaires finissent sous la douche parce que j'ai pas de place de vestiaire, j'ai pas le droit de m'asseoir et que les anciens prennent leur douche et moi j'ai mes affaires trempées, je sors plus de vestiaire. Voilà. Tu vois.
Bienveillance. Par exemple, nous il y avait un vestiaire pour les pros confirmés, puis un vestiaire pour les néo pros. Et dans le vestiaire pour les néo pros, il y avait rien, que de quoi de se changer, même pas les douches. Et quand tu voulais aller sur la table de massage, par exemple, avant l'échauffement. Avant les matchs, c'était tous les anciens qui passaient en premier, et quand c'était ton tour d'aller sur la table de massage, c'était le moment d'aller s'échauffer. Donc tu te faisais jamais masser. C'était un peu cet état d'esprit-là. C'est les cantines avec les maillots, c'est les jeunes qui les portent quand tu fais les trajets du bus à l'aéroport et du bus à l'hôtel.
Mais ça, Pascal, okay. C'est cool. Ça, c'est de vieille physique ou quand ça devient de, tu vois, sans rien oui, trop oui, dévoiler. De... Tu sais que dans un vestiaire, ça peut être horrible, l'emprise psychologique.
Oui, le bizutage un peu plus, ouais. Si t'aimes mieux. Voilà. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, les mœurs sont changées, parce qu'il y a toujours un va-et-vient. Ce qui fait aujourd'hui la force d'un club de football, un club qui est structuré, c'est qu'il il a toujours, comment dire, un turnover, à savoir des jeunes joueurs qui sont dessous et qui sont là pour amener de la valeur ajoutée à l'effectif professionnel, qui pendant la même saison viennent s'entraîner d'abord de temps à autre épisodiquement avec les pros, puis ensuite un peu plus pour confirmer le fait de s'entraîner toujours avec les pros. Donc le club qui tient la route, c'est comme ceci qu'il procède. C'est pour cette raison là qu'il y a des clubs qui ont un véritable savoir-faire. Je pense que celui qui réussit très bien, on n'en parle pas souvent, là on passe au sélectionneur, c'est Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, il a quand même l'art, depuis qu'il est en poste, d'opérer un renouvellement. C'est-à-dire, quand il perd Griezmann, quand il perd Giroud, ou quand il perd Varane, par exemple, il a déjà anticipé par l'abondance de jeunes joueurs dans le noyau de l'équipe de France.
C'est important que tu parles de ça, parce que ça montre à quel point ça peut être déterminant pour durer.
C'est déterminant.
Un acteur qui comprend le renouvellement et comment faire pour passer le témoin. Bennett,
c'est le rôle du sélectionneur.
Non, mais dans le tennis, c'est un sport individuel, ouais. Donc c'est forcément un peu différent. À quel point les anciens t'accueillent, à quel point tu accompagnes les jeunes joueurs français également, ou est-ce que vous êtes tous dans votre coin ?
Je pense que en ce moment, ils sont plus tous dans leur coin. Que moi, ce que j'ai connu quand je suis arrivé sur le circuit, et que quand tu fais pour la première fois des tournois ATP et que t'as les Scudé, Grosjean, Clément qui sont là depuis quelques années, eux, ils t'accueillent un peu, mais c'était une autre époque.
Mais tu veux dire quoi, aujourd'hui, il y a trop de structures privées, par exemple, autour des joueurs, ils sont dans leur petite entreprise et ils sortent pas trop de là, quoi.
Ouais. Moi, j'ai le souvenir, la première fois que je joue, par exemple, je suis avec Nico Mahut, on joue le double en 99 ou 2000 à Marseille, à l'Open 13, qui n'existe plus, donc à l'époque c'était un 250 d'aujourd'hui. On a perdu en qualif en simple, on a une wildcard en double. Bon, on est allé dîner sur le Vieux-Port avec Arnaud Di Pasquale, Fabrice Santoro et je ne sais plus lequel de joueurs. Tu vois, parce que on avait un entraîneur que Fabrice Santoro le connaissait, Arnaud Di Pasquale nous connaissait, venez les petits jeunes, on va dîner. aujourd'hui.
Ouais, il y avait un côté, on vous intègre quand même dans le circuit.
Oui, mais c'est ça la transmission, parce que pour vivre ce moment, tu dis, mais j'y retourne. Donc je vais faire les efforts pour y retourner, pour être à la même table que ces grands champions.
Et nous, il n'y a pas la transmission, il n'y a pas le truc via les équipes de France ou via le club, les sélections, parce que, et encore plus avec les formules d'aujourd'hui de la Coupe Davis ou de la Fed Cup, c'est tellement éphémère dans une saison que.
Et avant, vous vous retrouvez quand même de manière ponctuelle à plusieurs moments dans la saison.
Non, mais plus récurrent, ouais, bien sûr. Donc c'était pas du tout pareil. Et la vie sur le circuit, quand il y a des nouveaux qui arrivent, bon, bah oui, ils sont dans leur coin avec leur coach, et les autres qui sont là, ils sont avec leur coach, leur staff, leur femme, leur truc, ils dînent entre eux, voilà. C'est, il y a beaucoup moins de
non, mais
de
ça existe pas, par exemple, même les grands joueurs, j'en sais rien, moi, quand Alcaraz et Sinner arrivent sur le circuit, on sait que ça va être des cracks, les Djokovic et tout ça se disent pas, tiens, bah, ces gamins-là, ils vont faire partie du jeu, on va les accompagner un peu.
Non, mais non.
À quel point ça va aller tourner général aujourd'hui?
Non, mais non, si, de l'accompagner un peu, je sais pas, mais il y a des choses qu'ils partagent. Je sais que, par exemple, Sinner était très jeune. L'année où, à l'Open d'Australie, l'Open d'Australie avait lieu, mais il y avait encore les Covid, les espèces de bulles. Les joueurs devaient rester 15 jours au même endroit et s'entraîner avec le même joueur pendant 15 jours avant d'ouvrir cette bulle. Bah, Sinner a passé 15 jours avec Nadal. Donc pendant 15 jours, ils sont entraînés ensemble avec leur staff respectif. Mais est-ce que là, il y a eu une transmission? Oui, il y a forcément eu des échanges, etc. Mais c'est pas la même transmission au sens où là, quand on parle, pour revenir sur l'équipe de handball, des experts, où il y a des changements de génération avec une équipe et plusieurs générations qui ont tout gagné, c'est compliqué, c'est très dur. Et le rôle du sélectionneur, il est primordial.
C'est la vie de groupe. Ouais. Les anciens sont là aussi pour t'apprendre à comment te comporter dans une vie de groupe.
Exactement.
Parce que tu ne peux pas tout faire, même si t'es jeune et que t'es talentueux, tu as une certaine façon de te comporter, des codes qui sont assez simples, mais tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi.
Et je pense que l'équipe de France de foot, à un moment donné, a eu ces problèmes-là. 98-2000, on gagne tout, on est sur le toit du monde. 2002, il y a un peu Zizou qui est blessé, la Coupe du Monde, on ne sait pas. Et finalement, il y a les anciens. Et derrière, 2004...
Jérôme Bretagne, on parle souvent sur le problème de génération.
De génération.
C'est pour ça que c'est important ce dont on parle. Ce n'est pas du tout anecdotique.
Quand disait Pascal, ce qui est important, c'est l'intégration des jeunes au fur et à mesure. Parce que les clubs qui arrivent, ils parlaient de foot, je parlerai plus facilement du Stade Toulousain, plus tu les intègres dans la vie de groupe, plus tu les intègres à participer à des feuilles de match, plus ce passage de témoin, il est hyper facile.
Oui, mais alors toi, tu parles de ton expérience, Cédric, c'est intéressant. Tu disais, moi, je regardais pas forcément les petits jeunes comme des menaces ou des trucs comme ça, j'étais dans un truc assez positif. Mais justement, dans un environnement d'excellence comme le Stade Toulousain ou le Real, on en parlait hier pour le foot, enfin, en fait, vous savez très bien que n'importe quel jeune qui sort du centre de formation, il est là pour vous manger les chevilles.
Oui,
quoi.
Mais je suis d'accord.
Alors, toi, tu réagis comme ça, mais est-ce que tes coéquipiers réagissent?
Ouais, il y a eu.
Parce que c'est votre ADN Toulouse, vous êtes comme ça?
Non. Toulouse, c'est la ville rose, mais tout est pas rose.
Ah, voilà, ça, je veux.
Non, mais aux entraînements, des fois, tu vises, tu expliques, tu appuies des plaquages sur le petit jeune en essayant de faire comprendre qu'il est un peu trop tôt.
Que c'est toi le taulier, quoi.
Ouais, mais ça te fait progresser, tu vois, si tu prends
dans une logique d'excellence.
Voilà, je l'ai vécu et je l'ai subi. Les coups de. En dessous de la ceinture, c'est détestable. Et ça pète des vestiaires parce que ces gens-là ne savent pas partir. Et puis surtout, il y a beaucoup de coachs qui ne savent pas leur dire arrête parce que tu pollues la vestiaire.
C'est ce que j'allais dire, Cédric. Et c'est un enfer. L'importance de l'œil, la vigilance du coach, c'est extrêmement important.
C'est le sélectionneur qui vous le savez.
Comment passer le témoin? C'est le sujet du vestiaire, Pascal. Le rôle de l'entraîneur, justement. Est-ce que toi, tu dis, je ne sais pas, tu vois des joueurs expérimentés dans le vestiaire, tu dis prends ces joueurs sous ton aile, t'es un peu attentif justement à l'évolution des relations.
De bien définir les bons cadres quand tu es manager, il faut définir les bons cadres, donner des responsabilités aux joueurs qui comment dire collent à ces responsabilités là,
pas forcément qui performent tous.
Voilà, qui n'ont pas un ego surdimensionné. Ouais. Je prends un exemple. Souvent, le mercredi, j'avais l'habitude, quand j'étais coach, donc, d'opérer une opposition entre l'équipe type et puis les plus jeunes. Bah, quelquefois, t'as des garçons dans l'équipe type qui se comportent qui se comportent comme des vrais salopards, hein, qui mettent des pains aux jeunes comme c'est pas permis. Et là, si t'es coach, tu fermes les yeux. Franchement, tu perds l'adhésion. Et t'as rien à foutre dans un projet comme
ça. Qu'est-ce que tu fais alors?
Non, tu dis stop. Tu reprends. Tu reprends de voler.
Tu dis quoi?
Parce que ça m'est arrivé.
Non, mais convoquer nous à l'entraînement, ça s'est déjà battu.
Où tu convoquais le joueur. Tu dis, écoute, t'as la responsabilité d'être une courroie de transmission. T'as démarré. T'as été jeune. On t'a facilité l'éclosion. Donc, fais attention à avoir la même attitude avec les jeunes qui arrivent. Tu vois, c'est trouver la juste mesure de manière que, à ce que cette abondance de jeunes qui est indispensable pour un club moyen de Ligue 1 et pour tous les clubs de Ligue 1, quels qu'ils soient, il faut former des jeunes aujourd'hui. Il ne faut pas que ça soit coupé, tout ceci.
Est-ce que, justement, quand tu es en bout de carrière, en fin de carrière, est-ce que parfois vous êtes senti ringard, dépassé par les jeunes, les jeunes qui
dépassé déjà ce que tu apportes sur le terrain, du moins quand t'es dépassé en vitesse, en charge de travail, tu le sais. Si t'es honnête avec toi-même, tu sais que tu es en train de te faire manger, et c'est logique. Maintenant, c'est comment tu vas le vivre. Est-ce que tu es un vieux salopard et tu te dis, je vais leur mettre des bâtons dans les roues, je vais les dire, viens, on va en soirée et va te cramer, nani, nana.
Mais ça existe, hein, les joueurs.
Mais bien sûr que ça existe. Ou tu te dis, j'ai envie de transmettre, et t'as une vraie discussion, ce que je racontais à Bayonne, où quand j'arrive à Bayonne, je sors de la Coupe du Monde 2011, je fais ma première année, elle est escalée, mais elle est plutôt correcte plus, et la deuxième, je sens que ça y est, c'est fini. Et je vais voir les coachs en leur disant, les nouveaux coachs qui arrivent, en leur disant, voilà, mais faites de moi votre poil à gratter, du moins, par rapport aux jeunes. Je sais que Speeding, Marvin O'Connor vont être titulaires à l'époque à Bayonne. Mais une fois sur trois, une fois sur cinq, mettez-moi, challengez-moi, comme ça, moi, j'ai le temps de me préparer. Et je vais les pousser et je vais les remettre dans le retranchement. Et ça, je pense
que c'est ce dont on parlait au PSG ces derniers jours aussi, hein, de parfois mettre justement des petits jeunes pour.
Oui, et comme Pascal, disait, c'est que si t'as un discours très clair avec les uns et les autres et que tu définis bien les rôles des uns et des autres, eh ben, ça se passe beaucoup plus facilement. Et les messages sont top.
Ouais. Non, mais c'est le rôle évidemment de tout le monde en fait, hein, des joueurs, des cadres, est hyper important dans cette séquence là, le vestiaire. Donc comment passer le témoin, la passation entre une génération ou une autre, vous retrouvez en podcast évidemment. C'est fascinant, hein. Et voilà, il y a pas que des personnes bienveillantes.
Non, mais après
Christophe, il y a un message hier soir à 4h du matin, il m'a dit viens on sort comme ça tu seras prêt pour l'émission demain. Je l'ai pas suivi, je savais qu'il voulait m'envoyer en rap.
Moi je sens, tu vois, un Georges Quirino que j'ai pris sous mon quand il était jeune journaliste, là, je sens qu'il est en train de me pousser dehors, petit à petit.
Mais maintenant, tu peux savoir est-ce que tu continues à l'accompagner? Parce qu'à notre sens, il en a encore un peu besoin.
Bien sûr.
On en a toujours besoin.
Je rigole jaune. T'es viré, Mance.
Attention.